Le maestro parut légèrement étonné. « Vous dites, monsieur le consul général ?» Je m'empressai de l'embrasser sur les deux joues, selon l'usage, pour compléter la cérémonie. Je savais que ma mère avait été terriblement déçue par mon absence de génie musical, parce qu'elle n'y avait plus jamais fait allusion devant moi. Et chez elle, qui, il faut bien le dire, manquait si souvent de tact, une telle réserve était un signe certain de chagrin secret et profond. Ses propres ambitions artistiques ne s'étaient jamais accomplies, et elle comptait sur moi pour les réaliser. J'étais pour ma part décidée à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle devînt, par mon truchement, une actrice célèbre et acclamée. Et après avoir longuement hésité entre la peinture, la scène, le chant et la danse, je devais un jour opter pour la littérature qui me paraissait le dernier refuge sur cette terre de tous ceux qui ne savent pas où se fourrer. L'épisode du violon ne fut donc plus jamais mentionné entre nous, et une nouvelle voie fut recherchée pour nous mener à la gloire. Trois fois par semaine, je prenais mes pantoufles de soie et je me laissais conduire par la main au studio de Sacha Gigloff, et pendant deux heures, je levais consciencieusement la jambe à la barre, cependant que ma mère, assise dans un coin, joignait parfois les mains avec un sourire émerveillé et s'exclamait « Nijinsky, Nijinsky, tu seras Nijinsky, je sais ce que je dis !» Elle m'accompagnait ensuite au vestiaire, où elle demeurait l'œil alerte pendant que je me déshabillais, car ainsi qu'elle me l'avait expliqué, Sacha Gigloff avait de mauvaises mœurs, accusation qui se trouva bientôt justifiée, alors que je prenais une douche, lorsque Sacha Gigloff entra sur la pointe des pieds dans le réduit, et ainsi que je le crus dans mon innocence totale, tenta de me mordre, ce qui me fit pousser un hurlement affreux. Je revois encore le malheureux Gigloff fuyant à travers le gymnase, poursuivi par ma mère déchaînée, la canne à la main. Et ce fut la fin de ma carrière de grand danseur. Il y avait alors, à Vilno, deux autres écoles de danse, mais ma mère ainsi instruite ne s'y risqua plus. L'idée que son fils pût être autre chose qu'un homme aimant les femmes lui était intolérable. Je ne devais avoir guère plus de 8 ans lorsqu'elle commença à me faire le récit de mes succès futurs, à évoquer les soupirs et les regards, les billets doux et les serments, la main furtivement serrée sur la terrasse au clair de lune, mon uniforme blanc d'officier de la garde et la valse au loin, les murmures et les supplications. Elle me tenait contre elle, assise, les yeux baissés, avec un sourire un peu coupable et étrangement jeune, m'accordant tous les obstacles, tous les hommages et toutes les adulations auxquelles sa grande beauté lui avait sans doute jadis donné droit et dont le goût, le souvenir ne l'avait peut-être jamais pas quitté entièrement. Je m'appuyais négligemment contre elle. Je l'écoutais, d'un air nonchalant, mais avec le plus grand intérêt, en léchant distraitement la confiture sur ma tartine. J'étais beaucoup trop jeune pour comprendre qu'elle cherchait à s'exorciser ainsi de sa propre solitude féminine, de son propre besoin de tendresse et d'affection. Le violon et le ballet ainsi éliminés, et ma nullité en mathématiques m'interdisant d'être un nouvel Einstein, ce fut moi-même cette fois qui tentai de découvrir en moi quelques talents cachés qui eût permis aux aspirations artistiques de ma mère de se réaliser. Depuis plusieurs mois, j'avais pris l'habitude de m'amuser avec la boîte de couleurs qui faisait partie de mon équipement d'écolier. Je passais de longues heures un pinceau à la main et m'enivrais de rouge, de jaune, de vert et de bleu. Un jour, j'avais alors 10 ans, mon professeur de dessin vint trouver ma mère et lui fit part de son opinion. « Votre fils, madame, a un talent pour la peinture qu'il ne faut pas négliger. » Cette révélation eut sur ma mère un effet tout à fait inattendu. Sans doute la pauvre était-elle trop pénétrée des légendes et préjugés bourgeois en cours au début du siècle. Toujours est-il que pour une raison ou pour une autre, peinture et viraté allaient ensemble dans son esprit. Elle devait connaître juste ce qu'il fallait des carrières tragiques de Van Gogh, de Gauguin, pour être épouvantée. Je me souviens avec quelle expression de crainte sur le visage elle était entrée dans ma chambre, comment elle s'était assise, avec une sorte de découragement total devant moi, et comment elle m'avait regardée avec inquiétude et une muette supplication. Toutes les images de la bohème et tous les échos de rapins condamnés à l'ivrognerie, à la misère, à la tuberculose, devaient se succéder dans son esprit. Elle finit par résumer tout cela dans une formule saisissante et, ma foi, pas tellement fausse à bien y penser. « Tu as peut-être du génie, mais alors ils te feront crever de faim. » Je ne sais pas qui elle entendait au juste par il, sans doute ne le savait-elle pas elle-même, mais à partir de ce jour, il me fut pratiquement interdit de toucher à ma boîte de couleurs. Incapable de m'imaginer douée d'un simple petit talent d'enfant, ce qui était sans doute le cas, Son inspiration allait tout de suite à l'extrême, et refusant de me voir autrement qu'en héros, elle me voyait cette fois en héros maudit. Ma boîte d'aquarelle eut une fâcheuse tendance à devenir introuvable, et lorsque, réussissant à mettre la main dessus, je me mettais à peindre, ma mère sortait de la chambre, puis rentrait aussitôt, rôdant autour de moi comme un animal inquiet, regardant mon pinceau avec une consternation douloureuse, jusqu'au moment où, complètement écœurée, je laissais mes couleurs tranquilles une fois pour toutes. Je lui en ai voulu pendant longtemps, et il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir brusquement le sentiment d'une vocation